Les gens, c'est comme les mots. Il y a ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Quand j'aime pas, je supprime. Les mots, les gens, je supprime. Mais supprimer, justement, c'est un mot que j'aime pas.
Supprime-le.
Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents. Dans le fond, être tout idiot, t'es peut-être dans le vrai. Le savoir, quand on commence à mettre le nez dedans, c'est pire que la canne.
La ligne claire. Neuvième numéro de ce magazine sonore qui, je l'espère, saura vous surprendre, vous séduire et vous captiver. Nous avions 10, 20 ans. Nous avons lu « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée ». Nous avons souffert avec elle de sa descente aux enfers, senti la pisse des toilettes publiques où elle se shootait à l'héroïne dans le pied, car le reste du corps était perforé jusqu'au dernier centimètre carré. Eu la nausée lorsqu'elle s'embarquait en voiture avec un inconnu, en quête de jeune chair, elle que l'addiction à la drogue rendait disponible et bon marché. Nous avons aimé son histoire d'amour avec un autre gamin de la drogue, Detlef, dans des squats pourris où la question n'était pas de savoir qui allait mourir d'overdose, mais quand. Nous avons espéré aussi, l'estomac noué à chacun de ses combats bouleversants de violence pour décrocher. Et lui en avons voulu de récidiver ainsi vite. Pour rien, comme si son vrai plaisir de décrocher était de savoir qu'elle allait rechuter après. Secrètement, nous l'avons admiré de mener cette vie-là. Mais surtout, nous avons ressenti de la colère devant tant de malheurs et imploré le destin qui lui rende un jour son enfance volée. Vous êtes prêts? Je suis prêt aussi. Et maintenant, commençons.
Je suis prête. Vous êtes prêts aussi?
Attention. Et maintenant, commençons.
Andrea Fischer, une adolescente suisse, se passionne pour une jeune Allemande aux yeux verts et sa plongée infernale dans la drogue et la prostitution. Elle trouve cool son mépris de la mort, sa curiosité pour l'interdit, son attitude rebelle. Andrea veut lui ressembler. Bientôt, comme son idole, elle se shoote à l'héroïne. Andrea n'a rien d'un cas isolé. En Allemagne, des dizaines d'ados s'identifient à cette junkie fragile qui cache une aiguille dans son cartable. Comme elle, il traîne dans les bas-fonds de l'ex-Berlin-Ouest, à la discothèque Sound ou près de la gare du Zoo, quartier glauque, prisé des toxicomanes, où l'on tapine pour payer sa dose et où l'on se pique dans les toilettes publiques. Relayée par les médias, cette dérive empoisonnée de la jeunesse émeut jusqu'au sommet de l'État, qui lance une campagne de prévention anti-drogue. Au même moment, l'adaptation ciné de cette trajectoire dangereuse, dans laquelle David Bowie apparaît, sort sur les écrans européens. Son titre ? Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. L'histoire douloureuse de Christiane Felschrino, interviewée pendant 2 mois par les journalistes Kai Hermann et Horst Rick. Numéro 1 des ventes en Allemagne à sa sortie en 1979, son récit, conté à la première personne, est celui d'une enfance dure où pleuvent les coups d'un père aigri et endetté, d'un désespoir à peine étourdi par le haschich ou le LSD qu'elle essaye avant 12 ans afin d'être à la mode. Ensuite, il y aura les fugues, les barbituriques et l'héro, puis le trottoir pour s'en procurer encore et encore. Phénomène de société des années 80, Moi, Christiane F., se vend à 5 millions d'exemplaires, déclaré lecture obligatoire dans les écoles allemandes comme exemple à ne pas suivre. Christiane devient célèbre jusqu'à l'overdose. Voilà 35 ans que la presse commande ses déboires judiciaires ou sentimentaux. En 2013, Christiane publie la suite de sa terrible histoire, La vie malgré tout, entre sevrage et rechute, chanson et prison, entre son rôle de mère et celui d'icône de la génération Nos Futurs. Andrea, son admiratrice, est devenue journaliste. Quant au quartier de la gare du Zoo, il abrite aujourd'hui un luxueux centre commercial, mais ses environs restent peuplés de camés, de prostituées et de clochards. Comme elle le dit avec humour, qui aurait cru que moi, Christiane F., j'aurais un jour 51 ans. On peut mourir du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on ne fera pas de vieux os. Mais cette vie, c'est nous qui l'avons choisie.
Je venais de m'enfermer dans un WC pour me piquer. Et tout à coup, je vois un type sauter par-dessus la cloison, littéralement me tomber dessus. Manu le filou. On m'avait bien raconté que c'était son truc, se planquer dans les toilettes pour dames, attendre qu'une fille vienne se piquer. Sachant qu'il n'hésite pas à frapper, je lui donne tout de suite ma dose et ma seringue. Il sort, se plante devant un miroir et se pique dans le cou. Ce mec-là n'a plus peur de rien. Et c'est le seul endroit de tout son corps où il peut encore enfoncer une aiguille. Il saigne comme un cochon. Je crois qu'il s'est envoyé le shoot dans l'artère. Il s'en fout. Il me dit merci et disparaît. Ne m'intéresse. Je n'ai pas de projet, seulement des rêves. Maintenant, je ne suis à peu près heureuse que dans les moments où je rêve et où je rêve que je suis quelqu'un d'autre. Nous avons toujours rêvé d'aller à Paris. Nous voulions louer une chambrette à Montmartre et nous y étions intoxiqués. Nous n'avions jamais entendu parler de la drogue à Paris et nous pensions que ça n'existait pas. À Paris, il n'y a que des artistes, des mecs super. Ils boivent du café ou un verre de vin, de temps en temps. À midi, ma mère me réveille et m'apporte le déjeuner au lit. Elle le fait toujours quand je suis à la maison le dimanche. Je me force à avaler quelques bouchées, difficilement. À part le yaourt, le fromage blanc et les flans, plus rien ne descend. Comme chaque jour, je me regarde dans la glace. J'y vois un visage étranger, ravagé. Il y a longtemps que je ne me reconnais plus dans l'image que je me renvoie, que me renvoie le miroir. Ce visage ne m'appartient pas. Pas plus que le corps squelettique. Celui-là, d'ailleurs, je ne le sens même plus. L'héroïne l'a rendu insensible à la faim, à la douleur et même à la fièvre. Il ne se réveille que quand il est en crise de manque. La ligne claire. Debout, devant le miroir, je me prépare mon shoot. J'en ai vachement envie. C'est un shoot un peu spécial, car j'ai de la grise. On l'appelle ainsi par opposition à la blanche, de couleur blanche ou brunâtre, qu'on trouve généralement sur le marché. La grise, c'est une poudre grise mouchetée de vert, de l'héroïne particulièrement impure, mais qui provoque un flash dingue. Ça agit sur le cœur. Il faut effectuer les dosages avec beaucoup de soin. Si on s'en injecte trop, on clamse. Mais j'ai follement envie de ce super flash. Je m'enfonce l'aiguille dans la veine. J'aspire, le sang monte tout de suite. J'ai filtré plusieurs fois ma grise, mais ça contient des tas de saletés. Et ça y est, l'aiguille est bouchée. C'est à peu près ce qui peut arriver de pire, l'aiguille qui se bouche à ce moment précis. Car si le sang caille dans la seringue, il n'y a plus rien à faire. Il faut jeter la dose. J'appuie de toutes mes forces pour faire passer cette saloperie par l'aiguille. J'ai du bol. Ça marche. J'actionne encore une fois la seringue pour m'injecter le truc jusqu'à la dernière goutte. Et l'aiguille se rebouche. Je suis folle furieuse. Il ne me reste que 8 à 10 secondes avant le flash. J'appuie de toutes mes forces. Le piston saute et le sang gicle. Il y en a plein la salle de bain. Le flash est dément. Une crampe épouvantable dans la région du cœur. 1 million d'aiguilles me transpercent la peau du crâne. Je tiens ma tête à deux mains pour l'empêcher d'éclater sous le martèlement. À croire que quelqu'un me tape dessus. Et tout à coup, mon bras gauche est paralysé. Thank you. L'héroïne m'inspire une sainte horreur. Quand il est question de ce truc-là, je me rappelle brusquement que j'ai 13 ans. Mais d'un autre côté, me voici une nouvelle fois pleine de considération pour les autres, les groupes où l'on se pique. Pour moi, ce sont eux maintenant les êtres supérieurs. Les junkies nous regardent avec le plus grand mépris. Le hashish, ils appellent ça de la drogue pour bébé. Ça me déprime de penser que je ne ferai jamais partie de leur bande. Que la vraie scène, ce n'est pas pour moi. Plus de promotion possible donc. Car cette drogue-là me répugne profondément. C'est le fond de l'abîme. Qu'est-ce que ça veut dire, la protection de l'environnement ? C'est d'abord apprendre aux gens à vivre avec les autres. Voilà ce qu'on devrait nous apprendre dans cette foutue école, à s'intéresser les uns aux autres. Au lieu que chacun essaie d'avoir la plus grande gueule, d'être plus fort que le voisin, et qu'on passe son temps à se faire des crasses pour avoir une meilleure note.
Show wives wish I could never be down. I've got to keep searching and searching. Oh, what will I be believing? And who will connect me with love? Wonderful, wonderful, wonder when. Have you sought fortune's evasive and shy?
Edit.
On est nombreux à avoir découvert, au collège, en cours de français ou d'allemand, l'histoire de cette gamine, grandie trop vite, livrée à elle-même, qui plongeait dans la dope pour tromper l'ennui et échapper à un destin gris comme le béton de la cité de son enfance dans la banlieue de Berlin. Au fil des pages, on se piquait d'affection pour cette môme au doux visage dévoré par ses grands yeux. Sa naïveté était désarmante. Son franc-parler faisait de nous ses complices. Malgré le récit terrifiant de son addiction à l'héroïne, Christiane F. est devenue une icône dans les cours de récré et les chambres d'ados. Quand sa biographie paraît en 1979, Christiane F. a 16 ans. Elle a finalement réussi à s'en sortir. Elle est clean. Et elle a vie devant soi. C'est sur ce happy end qu'on l'avait quittée. En Allemagne, la presse à scandale a continué à écrire la chronique de son existence de loin en loin. Même si Christian F. aurait préféré se faire oublier, mal dans ses nouvelles pompes peu reluisantes de junkie de service. Avec 400 000 marques sur son compte en banque, elle décide d'abord de laisser Berlin et ses mauvais souvenirs derrière elle et part s'installer à Hambourg, au cœur de Sankt Pauli, repère de la Neue Deutsche Welle, la scène New Wave allemande alors en pleine explosion. Elle tombe amoureuse d'un guitariste avec qui elle formera le groupe éphémère Sentimental Schuckend. Elle enregistre aussi un disque sous le pseudo de Christiana, se voit attribuer des rôles dans des films underground tournés par des copains. Mais elle s'investit en dilettante dans cette nouvelle vie, persuadée que ce n'est pas la sienne. Ça m'a plu. Et naturellement, j'étais fier, mais je savais que je n'étais ni une super chanteuse, ni une actrice géniale, explique-t-elle aujourd'hui. Si elle ne touche plus à l'héros, Christiane F. continue à consommer allègrement tout ce qui ne s'injecte pas. Lors de la tournée de promo du film tiré du livre « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée », elle s'envole avec l'équipe du film pour les États-Unis. Là-bas, elle retrouve à boire un jus de fruits avec Billy Idol, sniff de la coke avec Van Halen, fait du shopping avec Nina Hagen. Une véritable discussion entre nous n'était certes pas possible. Elle avait à ce moment-là sa phase ovni, ce qui fait que chaque conversation finissait d'une manière ou d'une autre dans un néant extraterrestre. Mais nous nous amusions quand même. Elle fait la connaissance de son idole, David Bowie. Grand prince, il l'emmène une fois avec lui aux États-Unis à bord du jet privé des Stones pour la planter quelques heures plus tard à la fin d'un de ses shows. Elle le croisera à plusieurs reprises, mais avec lui aussi, elle n'arrive pas à aller au-delà du small talk. Comme si, toujours rattrapée par son mal de vivre lancinant, elle ne parvenait qu'à effleurer les nouveaux horizons offerts par sa troublante célébrité. À l'intérieur, le singe recommence à gronder, à réclamer sa part. 5 ans après sa victoire sur la dope, Christiane F. replonge. Il faut nourrir le singe, comme elle le répète. Et pas qu'un peu. La ligne claire.
Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm. und wünsche Ihnen einen recht guten.
This is again Radio Yerevan with our news.
Oh, I'm sorry. Have to turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news.
Disintegrating Christine. Christine.
Ça m'est assez égal de voir notre bande se défaire. J'ai Detlev. Les autres ne comptent plus tellement. Detlev et moi, ça va de mieux en mieux. Un dimanche, je l'amène à la maison. Je sais que ma mère et son ami sont absents. Je fais la cuisine pour Detlev. Je les prépare un vrai repas. Nous nous mettons à table et nous prenons notre déjeuner dominical comme un vrai couple. Je trouve ça vachement chouette. À certains moments, elle s'injecte quotidiennement 4 grammes de blanche dans le sang. Peut gober, comme des Smarties, jusqu'à 60 comprimés par jour. Tout y passe. Hypnotique, calmant, antidépresseur. Elle n'arrête pas d'essayer d'arrêter, mais reste la petite fille aux seringues, qui ne peut endormir ses angoisses qu'en se piquant les veines. Même ses 10 mois passés en prison pour possession de stupéfiants n'y feront rien. À 25 ans, elle prend un nouveau virage. Sur une plage grecque où elle pensait d'abord ne passer que quelques jours de vacances, elle a le coup de foudre pour un jeune ermite grec qui vit dans un arbre. Avec Panagiotis, elle vivra pendant 7 ans d'amour, d'héros et d'eau fraîche sur les îles grecques, ses plus belles années. Le couple est à Berlin pour quelques jours quand le mur tombe. Ce soir-là, les deux junkies préfèrent rester au lit plutôt que d'aller se mêler à la liesse. De retour à Berlin, après avoir plaqué Panagiotis, elle troque la dope contre la méthadone et fait la connaissance de Sébastien, un jeune junkie à la rue de 10 ans son cadet, de qui elle tombe amoureuse, puis enceinte. À 34 ans, elle donne naissance à Philippe, son trésor, son espoir. Ce garçon est bien la seule chose que j'ai faite de bien dans ma vie, dit-elle aujourd'hui. Elle a élevé son fils seul. Elle a dû apprendre à vivre avec le stigmate Christianef, être suivie de près par les services sociaux, voir certains parents interdire à leurs enfants de jouer avec Philippe. Elle n'a pas touché un gramme de poudre des années durant, jusqu'à ce qu'on lui retire la garde de son fils, en 2008, parce qu'elle l'avait emmené vivre à Amsterdam contre l'avis des services sociaux. Effondrée, il fallait qu'elle anesthésie sa douleur, comme elle le dit. Cette fois-ci, elle n'a replongé que quelques jours. Malade, Christianef ne supporte désormais plus la cam. Alors elle noie son chagrin dans la liqueur de whisky on the rock et traverse tous les jours Berlin pour recevoir sa dose de méthadone. Aujourd'hui encore, elle continue à vivre des droits d'auteur de son premier livre. Son fils va bien, c'est sa fierté, il veut devenir informaticien.
Claire.
Pas un jour ne passe dans la vie de cette femme de 51 ans qui dit n'avoir plus aucun ami, sans qu'on ne la reconnaisse dans la rue. Je suis et reste une célébrité junkie, une attraction, un animal rare, espèce, enfant de Banoff Zoo, écrit-elle, désabusée. C'est comme si, depuis toutes ces années, elle était restée enfermée dans son livre. Je n'ai jamais eu le droit de devenir adulte. Pour le grand public, je suis et reste la fille héroïnomane qui vient du trottoir où tapinent les enfants. Les autres, je me dis cet après-midi-là qu'il vaudrait mieux que je meure, rien que par amour pour ma mère. De toute manière, je ne sais plus si j'existe ou non. Essayer l'héroïne, je n'aurais jamais retrouvé Detlev. Je me figure que je resterai une toxico du week-end. On croit toujours ça quand on commence. Bien qu'on n'ait jamais vu quelqu'un rester un toxico du week-end. De plus, je m'imagine que je pourrais sauver Detlev, l'empêcher de devenir un vrai junkie. Je me satisfais de ses illusions. Ainsi dire automatiquement que tout ce qui est permis est affreusement ennuyeux. Et que ce qui est interdit est amusant. Chaque jour qui passe, je sais que je peux arrêter. Je contrôle ma vie. Je me sens enfin quelqu'un. J'appartiens à ma vie. La nuit est belle, je m'endors enfin. Plus tristes sont les matins où je me veille seul dans cette foutue ville. Peu à peu, mes amis me quittent. Votre absence m'est douloureuse. Votre mort s'ancre dans mon cœur, me laissant un dernier souffle sur mon visage, témoignage de nos existences, de notre mal-être. Mes bras ne sont pas assez forts, ne sont pas assez nombreux pour vous retenir. Ma vie demeure. Je reste à vous contempler dans mes souvenirs éthérés. Ma vie et vos morts sont à jamais unis. Je veux crier, hurler ma détresse, vociférer ma solitude. Je veux vous suivre dans ces bas-fonds, m'oublier dans ces limbes. Je suis là, perdu, aveugle dans ce monde incompris. Je n'y ai pas ma place et pourtant je dois vivre pour vous, m'en sortir. Votre mort est mon espoir, votre mort est ma raison de vivre. Votre mort sera mon calvaire, mon fardeau, votre cadeau, votre amitié.
Je viens de reprendre connaissance.
Graphite 94.9. Vous pouvez reprendre connaissance. La ligne claire se termine. Merci à Gisèle, Christian et Mitchum pour la belle inspiration. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour le dernier numéro de votre magazine sonore. Même lieu, même heure. Et d'ici là, restez à l'écoute. Il se passe bien des choses de ce côté de la radio. La ligne claire.